C'est une création récente, c'est quelque chose qu'a voulu le Concile Vatican II, en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire pour mieux réaliser la mission de l'Église et pour mieux annoncer l'Évangile. Les pères du Concile ont estimé qu'il fallait peut-être créer de nouvelles figures juridiques et théologiques dans l'Église, et entre autres solutions, ils ont proposé la solution des prélatures personnelles. Une prélature personnelle, finalement, la chose qui lui ressemble le plus, c'est un diocèse, même si ça n'est pas la même chose. C'est ce qui lui ressemble le plus dans la mesure où, dans un diocèse, fondamentalement, il y a un évêque, des prêtres qui travaillent autour de cet évêque et qui sont ses collaborateurs, et puis surtout des fidèles laïcs, des familles, des hommes et des femmes, des enfants. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'Opus Dei. C'est ce qui fait le point de contact entre une prélature personnelle et un diocèse. La différence fondamentale, c'est que les fidèles de l'Opus Dei, ils font aussi partie complètement des diocèses, des endroits où ils habitent. C'est-à-dire qu'un fidèle de l'Opus Dei qui habite Kinshasa ou qui habite à Paris, il est fidèle de l'Opus Dei, mais il est aussi, exactement comme les autres fidèles de Kinshasa ou de Paris, il est aussi membre du diocèse et donc soumis à l'autorité de l'évêque du lieu.
L'Opus Dei est la seule prélature personnelle du pape. Quels sont les fruits d'une telle mise en place de structures théologiques et juridiques pareilles?
L'enseignement qui a été donné, c'est que c'est une réalité qui est positive dans l'Église, qu'il y ait des prélatures personnelles, c'est-à-dire que la vie de l'Église a sanctionné l'intuition qui avait été celle des pères conciliaires de Vatican II, et que dans cette mesure, même si pour l'instant l'Opus Dei n'est que la première prélature personnelle, il y a sans doute l'espace dans l'Église pour qu'il y en ait d'autres, puisqu'on a constaté que c'était en effet un instrument qui pouvait servir de manière adéquate à la réalisation de la mission de l'Église.
Quels pourraient être les autres mouvements, institutions ou secteurs, entre guillemets, qui seraient susceptibles de pouvoir devenir une prélature personnelle?
Bien, par exemple, il y a une idée qui a été considérée à plusieurs reprises et qui donnera peut-être des fruits un jour, qui était l'apostolat de peuples qui connaissent une très forte migration. Par exemple, on a considéré à plusieurs reprises l'hypothèse d'ériger une prélature personnelle qui s'occupe des Philippins dans le monde, qui sont en général des fidèles catholiques, qui parfois arrivent dans des cultures dont ils ne connaissent pas la langue et qui peuvent à cause de ça perdre un certain contact avec l'Église. Et dans cette mesure, s'il y avait un prélat philippin, prélat personnel des Philippins qui s'occupe de l'apostolat des Philippins dans le monde, il pourrait avoir la préoccupation de se demander est-ce qu'il y a une réalité ecclésiale à Paris ou à New York qui soit en mesure d'accueillir ces Philippins, et donc il se préoccuperait d'envoyer un prêtre qui parle tagalog à Paris, qui parle tagalog à New York. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une autre possibilité dont on a déjà parlé, qui était l'apostolat des marins. Là aussi, c'est une réalité très internationale, qui peuvent avoir des nécessités pastorales très particulières, et une prélature personnelle pourrait être quelque chose d'adéquat pour eux aussi.
Les choses ont-elles changé depuis que l'Opus Dei est devenu une prélature personnelle il y a 25 ans?
Bien, d'une certaine manière, ça a changé beaucoup de choses et d'autre part, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé dans la mesure où ce que le Saint-Siège a fait en érigeant l'Opus Dei en prélature personnelle, c'était reconnaître la vérité de ce que c'était que l'Opus Dei, c'est-à-dire fondamentalement un groupe de laïcs et de prêtres qui cherchent à vivre la sanctification dans le monde. Et ça, c'est ce que c'était l'Opus Dei depuis 1928, sa fondation par Saint José Maria, et ça n'a pas changé quand le serviteur de Dieu Jean-Paul II a érigé l'Opus Dei en prélature personnelle. Ce qui a changé, c'est que les choses ont été reconnues avec clarté, et donc il était beaucoup plus facile d'expliquer ce que nous étions, ce que c'était que l'Opus Dei, ce que c'était l'Opus Dei dans l'Église et dans le monde.
Et alors, depuis 25 ans qu'existe cette prélature personnelle, comment l'œuvre a-t-elle évolué?
L'Opus Dei a changé fondamentalement parce que les apostolats de l'œuvre se sont répandus dans le monde. Il y a de nouveaux pays où les apostolats de l'Opus Dei ont commencé. Par exemple, pour les derniers pays, je pense à la Russie, à Moscou, où le travail de la prélature a commencé il y a quelques mois. Et puis, il y a d'autres pays où le prélat de l'œuvre compte commencer dans pas longtemps, notamment la Roumanie, peut-être le Vietnam.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos relations avec le Saint-Siège? Et est-ce qu'il y a eu des changements notoires entre le pontificat de Jean-Paul II et puis celui de Benoît XVI maintenant?
Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement. C'est-à-dire, il y a une grande continuité dans les options fondamentales, parce qu'à mon avis, les options fondamentales sont toujours de la part du pape. Le service de l'Église, l'ouverture aux diversités de la vie dans l'Église, une spiritualité de communion. Et dans cette mesure, Le pape, quel qu'il soit, que ce soit Jean-Paul II ou Benoît XVI, aime l'Opus Dei parce qu'il aime et il veut aimer toutes les institutions et toutes les spiritualités qui peuvent exister dans l'Église.
Et alors aujourd'hui, comment se porte l'œuvre? Vous avez combien de fidèles dans l'œuvre?
Plus de 80 000, dont à peu près 2 000 prêtres. Et d'une manière assez semblable à ce qui est la répartition de l'Église dans le monde, c'est-à-dire l'Opus Dei maintenant est surtout une réalité américaine, que ce soit en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. Ensuite, il y a l'Europe, et puis après, en plein développement, comme au sein de l'Église, l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Océanie.
Alors, l'œuvre a souvent été attaquée,
oui.
Notamment pour, entre guillemets, je dirais, son opacité. Comment vous en sortez? Comment vous situez l'œuvre maintenant?
Je pense que ça a été très positif. Ça, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, puisque en étant un Français qui vit à Rome, donc on rencontre des gens, et plusieurs reprises en étant avec des amis dans la rue ou avec des membres de ma famille, on s'arrête et les gens demandent qui vous êtes, et vous, le prêtre, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? On dit Opus Dei, et en effet, il y a des tas de gens qui disaient immédiatement Da Vinci Code et qui se demandaient si je n'allais pas les assassiner, comme le héros du roman qui est un membre de l'Opus Dei. Mais je crois qu'il y a eu un effort très fort de la prélature de communication qui a donné beaucoup de fruits. Il y a même un nombre non négligeable de personnes qui sont entrées en contact avec l'Opus Dei en lisant le livre ou en voyant le film et qui se sont demandé est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte dans ce livre, est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte dans ce film, et qui ont découvert une réalité bien différente. Ils l'ont trouvé très positive, et il y a même certaines personnes qui sont maintenant des fidèles de l'Opus Dei qui ont demandé l'admission dans la prélature.